Je voudrais vous proposer la lecture d'un passage pour ceux qui étaient là dimanche dernier. C'est juste un rappel, c'est dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48, où Jésus dit ceci: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Dimanche dernier, lors de sa prédication sur ce thème de l'amour des ennemis, Olivier Randel nous a raconté l'histoire d'Abraham Lincoln, n'est-ce pas, qui a choisi comme collaborateur Edwin Stanton, l'un de ses ennemis déclarés, un homme qui ne manquait aucune occasion pour dénigrer Abraham Lincoln aux yeux du public. Et pourtant, c'est cet homme-là que le président Abraham Lincoln a choisi comme collaborateur. Grâce à ce choix, Stanton a accompli un travail inestimable pour son président et pour son pays, et Lincoln a transformé un ennemi en ami. Faites quelque chose d'extraordinaire, dit Jésus, aimez vos ennemis. Ce commandement est sans doute le plus difficile, le plus exigeant de tous les commandements de Jésus. Aimer son prochain, c'est pas très difficile, n'est-ce pas? Surtout si celui-ci ne nous casse pas les pieds, souvent, n'est-ce pas? Mais dans ce sermon sur la montagne, dont fait partie le passage que nous venons de lire, Jésus nous dit non seulement d'aimer notre prochain, mais d'aimer aussi nos ennemis. C'est-à-dire que nos ennemis sont aussi notre prochain, nos prochains. D'aimer non seulement notre prochain, mais d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui sont détestables, ceux à qui on aimerait parfois tordre le cou, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps. Est-ce possible d'aimer nos ennemis? Est-ce possible d'aimer nos ennemis? Moi, je dirais que si Jésus nous donne ce commandement, cela veut dire que sa mise en pratique doit être possible. Elle doit être possible. L'exemple d'Abraham Lincoln et de beaucoup d'autres nous disent que c'est possible quand on appartient au Christ. C'est possible quand on est disciple de Jésus-Christ et qu'on a le désir de mettre en pratique dans notre vie de chaque jour ses ordres, ce qu'il nous demande de faire. Dans ce passage, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis de manière concrète. Les aimer de manière concrète, et il nous dit aussi ce que nous devons faire, certaines choses que nous devons faire pour aimer nos ennemis. Mais avant de voir les trois manières concrètes et pratiques que Jésus cite pour démontrer notre amour vis-à-vis de nos ennemis, permettez-moi de rappeler d'abord quelques exemples, quelques illustrations véridiques connues de chrétiens qui ont été effectivement capables de mettre dans leur vie de chaque jour en pratique ce commandement du Seigneur, celui d'aimer leurs ennemis et de pardonner le mal, les fautes qu'ils auraient commis à leur égard. Je vais citer ces exemples parce que je pense qu'ils peuvent nous aider, n'est-ce pas? Ils peuvent inspirer nos vies de chaque jour, nous aider, nous aussi, à mettre en pratique ce commandement du Seigneur. C'est par exemple le cas de ce chirurgien militaire qui, au cours d'une bataille, se penchait sur un soldat ennemi grièvement malade, grèvement blessé. Il le fait pour le soigner. En tant que médecin consciencieux, il veut soigner. Et ce soldat, dans un geste de haine aveugle, de colère, de mépris, lui cracha au visage. Le médecin, qui était un chrétien convaincu, essuie son visage et il poursuit ses soins à ce blessé de guerre auquel il va sauver la vie. C'est aussi l'exemple, le cas de Kim Puk, n'est-ce pas, cette petite jeune fille vietnamienne qui a été photographiée en train de courir toute nue sous un déluge de feu au Vietnam. Cette photo a été vue par des millions de personnes partout dans le monde. Elle a été amenée à l'hôpital par ce photographe et selon son propre témoignage, elle est restée 14 mois à l'hôpital où elle a subi 17 opérations pour soigner les brûlures au troisième degré qui couvraient plus de la moitié de son propre corps. Elle est devenue chrétienne, elle s'est convertie à Jésus-Christ et plus tard, lors d'une conférence à Washington, elle a pu rencontrer le pilote de l'avion qui avait largué la bombe au-dessus de sa ville natale. Celui-ci, en larmes, lui a demandé pardon, lui a expliqué que cette guerre avait complètement brisé sa vie, lui a expliqué aussi qu'il faisait des cauchemars la nuit, qu'il avait du mal à dormir. Il avait un problème terrible de culpabilité et il a demandé pardon. Et le pardon lui a été accepté. Même si elle portait toujours les cicatrices sur son corps, elle lui a offert son pardon et ils ont pu pleurer et prier tous les deux ensemble. C'est encore le cas de cette infirmière chrétienne qui raconte aussi son témoignage. Lors d'un raid contre un village arménien, des bandits kurdes massacrent toute sa famille. Elle, petite fille en bas âge, réussit à s'échapper. Quelques années plus tard, cette fillette a fait des études d'infirmière. Et à l'hôpital même où elle exerçait son métier d'infirmière, on lui a confié un jour le cas désespéré d'un homme dont la vie était suspendue à un fil et finalement dont la vie dépendait entièrement des soins qu'elle allait prodiguer à cet homme. Le problème, c'est qu'elle a reconnu aisément en cet homme un de ceux qui avaient massacré toute sa famille. Elle savait qu'il suffisait d'une légère négligence par-ci et par-là dans le traitement de cet homme pour qu'il meure et personne ne lui dirait rien parce qu'il était dans un état terrible. Cependant, elle a soigné cet homme avec beaucoup de soins, avec beaucoup de dévouement, et cet homme a guéri. Lorsqu'elle a raconté cela à une amie intime, elle a tout simplement dit « Que pouvais-je faire d'autre puisque je suis chrétienne ?»« Que pouvais-je faire d'autre puisque je suis chrétienne ?» C'est le cas de Martin Luther King, n'est-ce pas, dont on a célébré récemment le 40e anniversaire de son assassinat, le combat non violent contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Rappelons un petit peu l'histoire de cet homme. Le 1er décembre 1955, dans l'Alabama, une femme noire, Rosa Parks, rentre du travail en bus. Elle refuse de se lever pour céder sa place à un homme blanc. Elle est arrêtée et emprisonnée. Il s'ensuit un boycott des bus de la ville de Montgomery par la communauté noire, qui était très importante dans cette ville, je crois autour de 75% de la population. Les gens ont préféré aller à pied au travail que de prendre le bus. C'est un boycott qui a duré plus d'une année. Plus d'une année. Au deuxième mois de boycott, il y a une bombe qui explose chez la famille King, n'est-ce pas? Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais une foule s'amasse devant la maison de Martin Luther King en colère. Plusieurs sont armés et crient vengeance. Martin Luther King prend la parole, il dit ces mots, « Pas de panique, n'utilisez pas vos armes. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Il cite le Christ, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas résoudre ce problème par le recours à la violence. À la violence, on doit répondre par une non-violence active. Et il ajoute, je vous demande d'aimer vos ennemis. Je vous demande d'aimer vos ennemis. C'est encore cet homme qui disait avant d'être assassiné, la race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Cet homme va endurer toutes sortes de souffrances. Il a été emprisonné, il a été poignardé, il a été menacé de mort pendant plusieurs années au téléphone. Il a été agressé dans un hôtel, agressé physiquement dans un hôtel. Il a été mis en prison une vingtaine de fois. Et c'est même en prison qu'il a écrit un message, une prédication sur l'amour des ennemis. C'est encore ce bel exemple de non-violence qui nous vient aussi de la communauté Amish aux États-Unis. Il y a environ 5 ou 6 ans, je ne m'en rappelle plus, il y a eu un événement tragique au sein de cette communauté. Un homme s'est introduit dans leur école à Nickel Mills, en Pennsylvanie, et il a exécuté 5 fillettes et blessé 5 autres. Cette histoire a fait le tour du monde, nous l'avons vu sur les écrans de nos télévisions, n'est-ce pas? Surtout que la réaction exemplaire de la communauté Amish face à cette tragédie terrible a suscité beaucoup d'admiration partout dans le monde. Un lundi matin, Charles Roberts, laitier, père de famille sans histoire, dépose ses enfants à l'arrêt du bus scolaire avant de se diriger vers cette école Amish de son voisinage. Là, il fait irruption dans l'unique salle de classe où se trouvent plus de 25 personnes, 25 élèves. Après avoir fait sortir les garçons et quelques femmes présentes dans la classe, il se barricade à l'intérieur en condamnant les issues. Après avoir ligoté les fillettes en ligne le long du tableau, Robert appelle son épouse au téléphone et l'informe de son action, expliquant que son geste est en relation avec un abus sexuel qu'il avait commis dans sa jeunesse, mais aussi avec la mort non acceptée de sa première fille. Lorsque la police est intervenue, c'était trop tard. L'homme avait déjà commis l'irréparable. Il avait ouvert le feu sur les fillettes avant de retourner l'arme contre lui-même. Naomi, 7 ans, Anna, 12 ans, Marianne, 13 ans, Mary, 8 ans, et sa sœur Lina, 7 ans, ont été exécutés sur le coup, et 5 autres fillettes ont été blessées. Bien sûr, ça, face à une telle tragédie, on se laisse facilement envahir par un terrible sentiment d'incompréhension, de révolte, de colère, de haine même contre cet homme, et peut-être même aussi contre sa famille. Il nous est impossible de comprendre une manifestation si brutale, si cruelle, si impitoyable à l'égard de ces petites filles innocentes. Et en plus de la part d'un père de famille, apparemment sans histoire. Un tel acte nous laisse perplexes et nous interroge. Pourquoi le mal? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi des petites filles innocentes sont exécutées de la sorte? Dans ce contexte, un journaliste américain évoquait la remarque de Frodon, n'est-ce pas, dans le roman Le Seigneur des Anneaux. J'aurais bien voulu que cela n'eût pas à se passer de mon temps. Sur quoi Gandalf lui répond, moi aussi, comme tous ceux qui vivent pour voir de tels temps. Mais la décision ne leur appartient pas. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Ce que nous faisons du temps qui nous est donné. Et Gandalf de rappeler à son jeune compagnon qu'en dehors du pouvoir du mal, il y a encore autre chose à l'œuvre. Il y a encore autre chose à l'œuvre. Dans l'esprit de l'auteur de ce roman, Tolkien, n'est-ce pas? Cette autre chose, évoquée de manière allégorique, c'est l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ. Les Amish non plus n'ont pas choisi ce temps tragique. Mais qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait de ce temps tragique? Ils ont su gérer de manière tout à fait chrétienne, de manière tout à fait évangélique ces circonstances dramatiques. À tel point que leur réaction a finalement surpris tout le monde. Malgré la douleur qui était la leur, ils se sont remis à Dieu. Ils ont pris soin les uns des autres, notamment des familles endeuillées par ces événements tragiques. Dans l'esprit de, d'entraide et de soutien mutuel qui les caractérise. Les parents de Marianne ont invité la famille du tueur à se joindre aux funérailles de leur fille. Des amis sont allés à l'enterrement du tueur. La communauté amiche a aussi rapidement fait savoir qu'elle pardonnait au meurtrier et qu'elle soutiendrait sa famille par le fonds d'entraide mis en place pour les familles des victimes. Les amis ont fait une démonstration étonnante de la grâce chrétienne, une démonstration du pouvoir du pardon. Ils ont pardonné à leur agresseur, ils ont enterré leur mort, ils se sont rassemblés pour un partage fraternel de leur chagrin, de leur douleur, et ils sont retournés à leurs affaires, à leur vie de chaque jour. Et même quelques jours après, ils ont rasé cette salle de classe, cette école, parce qu'ils ne voulaient pas garder le souvenir d'un événement si tragique. Qu'est-ce qui peut motiver un tel comportement? Comportement bizarre pour le monde. Qu'est-ce qui peut motiver un tel comportement? Sans doute les paroles de l'Évangile qui inspirent leur vie. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ce style de vie inspiré par l'Évangile est communiqué déjà très tôt aux enfants de la communauté. Il paraît que quelques secondes avant le déclenchement de cette tuerie, voyant que le pire était inévitable, Marianne Fischer, 13 ans, cherchant à sauver ses plus petites camarades, interpelle le tueur en exigeant d'être abattue la première. Un pasteur à l'enterrement de Marianne rapporte comment le grand-père de la famille faisait remarquer aux enfants présents: « Nous ne devons pas penser du mal de cet homme. Nous ne devons pas penser du mal de cet homme. L'amour de l'ennemi et le pardon, voilà ce que le Seigneur demande à ceux qui lui appartiennent. » Pourquoi? Parce que l'amour, la force de l'amour, est bien plus grande que la haine, bien plus grande que la vengeance, bien plus grande que la violence par laquelle les hommes essayent le plus souvent, n'est-ce pas, de corriger les dysfonctionnements de ce monde. En moins de 2 semaines, les Amish, la communauté Amish, a donné au monde une leçon d'amour, de pardon, d'humilité, n'est-ce pas, de compassion exemplaire. Et ils nous rappellent comment gérer finalement de manière authentiquement chrétienne une tragédie comme celle-ci. À Rome, dans les catacombes chrétiennes, on a trouvé sur les murs une histoire aussi assez impressionnante qui vaut la peine d'être connue. Un homme riche nommé Proculus avait des centaines et des centaines d'esclaves. L'un de ces esclaves nommé Paulus était un homme digne de confiance que Proculus l'avait établi pour être l'administrateur de sa maison, de sa propriété. Un jour, Proculus a amené Paulus avec lui pour aller au marché d'esclaves afin d'acheter de nouveaux esclaves. Juste avant que la négociation n'ait commencé, ils ont examiné tous les esclaves qui étaient à vendre afin de déterminer ceux qui étaient costauds, forts, capables, en bonne santé pour travailler dans la propriété. Et parmi les esclaves, il y avait un homme vieux et faible. Un homme vieux et faible. Paulus a recommandé vivement à son propriétaire d'acheter cet esclave-là, cet homme. Proculus a répondu: « Mais ça va pas, il n'est plus bon à rien. » « Achetez-le, » insista Paulus. « Il est bon marché et je promets que le travail dans votre propriété sera mieux fait qu'auparavant. » Ainsi Proculus consentit et il acheta cet esclave faible et âgé. Et Paulus a tenu parole, le travail était effectivement mieux fait qu'auparavant. Mais Proculus a observé que Paulus travaillait 2 fois plus maintenant. Il a observé que maintenant Paulus faisait le travail pour 2 hommes. Le vieil esclave n'avait fait aucun travail, tandis que Paulus travaillait pour lui et nourrissait cet homme en lui donnant le meilleur possible, la bonne nourriture possible. Proculus, curieux, a donc demandé à Paulus, « Mais qui est cet esclave ? Qui est cet esclave ? Vous savez que je vous estime, je ne m'objecte pas à votre protection de ce vieil homme. » Mais dites-moi, qui est cet homme? Est-il votre père qui est devenu esclave? Paulus a répondu, c'est quelqu'un à qui je dois plus qu'à mon père. Est-ce votre enseignant alors? Continua Proculus. Non, c'est quelqu'un à qui je dois même plus encore. Qui est-ce alors? Demanda-t-il de plus en plus curieux. Et la réponse était celle-ci, c'est mon ennemi. C'est mon ennemi. C'est lui qui a tué mon père et qui nous a vendus tous, mes frères et sœurs et moi, comme esclaves. Proculus resta debout, muet, ne sachant plus quoi dire. Et Paulus a ajouté ceci, « Quant à moi, je suis un disciple de Jésus-Christ qui nous a appris à aimer nos ennemis et à récompenser le mal par le bien. » Que faites-vous d'extraordinaire, demande Jésus. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être la parole la plus difficile de l'Évangile. La parole peut-être la plus difficile qu'on ait jamais entendue. Mais au cas où nous aurions des doutes, Jésus ajoute, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Voilà les trois manières pratiques qu'il nous donne pour mettre en pratique ce commandement. Bénissez-les, c'est-à-dire accordez-leur de bonnes paroles, des paroles douces, apaisantes, quand ils parlent mal de vous et vous blessent, quand ils vous font le mal. La bénédiction contre la méchanceté, voilà le meilleur antidote contre la vengeance, l'amertume, n'est-ce pas? Contre ce cercle vicieux de la haine qui produit encore de la haine, la vengeance qui produit encore de la vengeance. L'apôtre Pierre écrivait ceci à ses frères, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous en vous laissant un exemple. » Afin que vous suivez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Bénissez-les. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Désarmez-les en leur faisant du bien. Gagnez-les par votre générosité, par votre libéralité. D'ailleurs, aimer, c'est finalement agir pour le bien de l'autre, n'est-ce pas? Agir pour le bien de l'autre, c'est faire du bien à l'autre, comme dit Florent Pagny dans sa chanson, sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et au cas où on serait tenté d'esquiver, n'est-ce pas, ce commandement, la vérité enseignée, Jésus nous donne encore quelques exemples que nous pouvons lire dans l'Évangile selon Luc. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et puis il ajoute cette règle d'or, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Enfin, la troisième manière pratique que Jésus nous suggère pour aimer nos ennemis, c'est de prier pour eux, de prier pour nos ennemis. C'est ce que Jésus a fait sous la croix, n'est-ce pas, en priant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ce qu'Étienne a fait lorsque, en train d'être lapidé, il a prié pour en faveur de ceux qui étaient en train de l'exécuter. Et Jésus termine en disant le but vers lequel nous devons tendre continuellement. « Soyez parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voilà, frères et sœurs, chers amis, ce qu'il faut faire pour être délivré de la haine, de la colère, de l'amertume, de l'irritation, de l'esprit de vengeance qui règne finalement dans notre société, dans nos sociétés, dans le monde. Voilà le chemin que le Christ propose à ceux qui ont le courage de mettre en pratique son enseignement, qui ont le courage d'opposer l'amour du Christ au mal et à la violence qui règne dans ce monde. Aimer son ennemi. Aime ton ennemi. Aimer son ennemi, c'est refuser de se laisser gagner par le mal. C'est refuser de se laisser dominer par le mal. C'est d'essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, d'être vainqueur du mal par le bien. Jésus a démontré que l'amour est finalement la seule force capable de nous libérer et de vaincre l'ennemi. Malheureusement, souvent, on agit comme ce petit garçon, n'est-ce pas, qui faisait sa prière le soir avant de se coucher, et qui disait, « Seigneur, bénis tous les habitants de la terre, sauf la maîtresse qui m'a tiré les oreilles ce matin, l'épicier qui vend des épinards que je n'aime pas du tout, et l'inventeur du savon. » Demandons au Seigneur de ne pas avoir à notre esprit cette prière qui est peut-être imaginaire, mais parfois nous pouvons le penser, n'est-ce pas? Ce que nous voulons en tant que chrétiens, c'est que le Seigneur nous aide à mettre en pratique son enseignement. L'apôtre Paul dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avec le Saint-Esprit dans nos vies, nous pouvons effectivement aimer nos ennemis. Et je termine avec cette phrase d'Alfred Plumer qui dit ceci, « Rendre le mal pour le mal est diabolique. Rendre le bien pour le bien est humain. Rendre le bien pour le mal est divin. » Rendre le bien pour le mal est divin. Que le Seigneur bénisse sa parole.